RBA FM, Auvergne, Limousin.
RBA FM vous propose le quatrième épisode de l'émission Mémoire et patrimoine consacrée à la thèse de Denis Bryce, Identité villageoise en Haute-Auvergne, Trisac, XVIIe siècle, début XXe. Mémoire et patrimoine, une émission proposée et présentée par Gérard Marty.
Pour notre première émission, Mémoire et patrimoine dans le Haut-Cantal et la Haute-Corrèze, nous recevons Denis Bryce. Denis Bryce est professeur agrégé de génie civil à l'Université de Bordeaux. En 2017, il a repris des études d'histoire, sa passion, et en décembre dernier, il a présenté avec succès une thèse qui fait de lui un docteur en histoire. Alors disons-le tout de suite, Denis Bryce n'est ni corrézien ni auvergnat. Par contre, la thèse qu'il a réalisée nous a tout de suite intéressés, car elle porte sur la vie d'un village de Haute-Auvergne, Trisac, plus précisément, qui est aussi le lieu de naissance de son épouse, et qu'il a étudié sur une longue période allant de 1648 à 1914, soit 3 siècles et 9 générations. Ce travail considérable l'a amené à reconstituer plus de 3000 familles et à identifier plus de 700 parcours de migrants. Alors, nous lui avons demandé de nous raconter tout ça dans une interview en 4 épisodes sur RBA Auvergne-Limousin. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes donc dans notre émission Identité en Haute-Auvergne. Nous sommes toujours avec Denis Bryce. C'est aujourd'hui le 4e épisode consacré à la thèse qu'il a écrite et grâce à laquelle il a obtenu le titre de docteur en histoire. Voilà, nous avons évoqué différents sujets et aujourd'hui, j'aimerais que nous évoquions ensemble les changements qui se sont produits à l'aube du 19e siècle et tout au long du 19e siècle jusqu'au 20e siècle et qui ont quand même bouleversé la vie des gens. Le premier thème que je vous demanderai d'évoquer, c'est celui de l'administration locale, si je puis employer ce mot, mais c'est-à-dire qu'après le pouvoir royal est arrivée une nouvelle forme de pouvoir qui était un pouvoir qui émanait des autorités d'un État constitué sur d'autres bases que la toute-puissance du roi et des nobles.
Alors, la
après
vraie
la
rupture,
révolution, bien sûr.
La vraie rupture, elle est évidemment en 1789. Tout le monde a en tête le 14 juillet, la déclaration des droits de l'homme, la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. Ça veut dire que du jour au lendemain, les justices seigneuriales n'existent plus. Donc par exemple, dans les registres de justice seigneuriale qui existent pour la fin de l'ancien régime à Trisac, Phénolaque de Prades, qui est juge seigneurial aussi, il cumule les fonctions, mais il écrit par exemple, il reproduit la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il la recopie. C'est à Versailles que la déclaration a été faite, et quelques semaines plus tard, Phénolaque de Prades, à Trisac, recopie cette déclaration.
D'accord. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme.
Bien évidemment, cette Révolution française et les années qui ont suivi modifient complètement les mentalités, les aspirations des gens. C'est-à-dire que des concepts comme propriété, comme liberté, n'étaient pas formalisés comme ils l'ont été à la Révolution française. Le Code civil qui est instauré au début du XIXe siècle dit « tout le monde est égal devant la succession ». Que devient un aîné? Que devient un cadet? Ça n'existe plus dans le texte. Ce n'est plus légal. Alors, les mentalités évoluent cependant très lentement. Il y a des pesanteurs. Donc, par exemple, l'aîné et le cadet, ça n'existe plus dans la loi, mais les familles, avec l'aide des notaires, s'en débrouillent jusqu'à la fin du XIXe siècle et les pratiques perdurent avec des arrangements.
Une inertie finalement l'ancien régime.
Alors ce n'est pas l'ancien régime au sens politique, les traditions, les coutumes de. Alors la coutume cette fois-ci au sens d'habitude de transmission du patrimoine. Préserver l'exploitation, ça reste. Le moyen reste la transmission à un héritier unique. Donc on va privilégier un enfant par rapport aux autres en sous-évaluant le patrimoine, etc. Pour l'aspect politique, alors il y a 2 ruptures. La première, c'est 1831, où les conseils municipaux, pour la première fois, sont élus au suffrage universel masculin, et qui plus est, en 1931, censitaires. C'est-à-dire qu'à Trisac, on peut estimer qu'environ un homme adulte sur 3 a le droit de vote à ce moment-là, les plus aisés. Mais ça veut dire quand même une fraction importante de la population va pouvoir se prononcer. Et les historiens sont d'accord pour dire que c'est le début, en France, de la politique au ras du sol. C'est-à-dire que tout un chacun peut voter, se prononcer.
Voilà.
Alors bien évidemment, il faut des années, des décennies pour s'accoutumer à ceci. 1848 est la seconde rupture. À Trisac, c'est le 22 avril 1848 qu'on vote pour la première fois au suffrage universel masculin. Il y a 478 électeurs pour élire des députés, des représentants. L'été, en juillet, on a les premières municipales au suffrage universel. Et là, il y a un scrutin extrêmement intéressant, en mon sens, à Trisac. On a les délibérations après le vote. Le maire, jusqu'en 1948, était le notaire, qui s'appelle Raoux, et son gendre est un nommé Laden. Les deux sont élus. Alors, les deux peuvent pas être élus, mais les deux sont élus. Et on n'a pas le droit d'être deux membres de la même famille au conseil municipal à ce moment-là. Donc l'ancien maire démissionne immédiatement, alors qu'il vient d'être élu, pour que son gendre devienne maire. Mais il se trouve qu'il y a eu un suffrage élargi, et il y a quelqu'un qui s'appelle François-Émile Fénolac, encore un Fénolac, qui est républicain en 1848, et qui se présente aussi devant le conseil municipal pour être élu maire. Ils sont 16, et il faut 3 tours de scrutin pour les départager. S'ils sont à égalité, c'est au 3e tour, c'est au bénéfice de l'âge. Fénolac est le plus âgé, il aurait été élu maire, mais il y a un basculement d'une voix, et à 9 voix contre 7, Laden est élu maire. Donc c'est un tenant de la continuité avec la monarchie de Juillet, des élites plutôt traditionnelles qui l'emportent. Fénolac a une trajectoire particulière, puisque 3 ans après, il s'oppose au coup d'État de Napoléon Bonaparte. Il est condamné, il est sommé de démissionner du conseil municipal, il est poursuivi, il est emprisonné, puis libéré dans les années 60 quand le Second Empire se relâche, devient plus libéral, et en 1879, à la fin de sa vie, pour 2 ans, maire de Trisac. Donc on a un destin singulier ici de quelqu'un qui... on peut voir au travers de ce destin singulier la politique nationale en raccourci. Oui. Je trouve ça... il pourrait y avoir une rue François-Émile Fénolac à Trisac.
Donc finalement, très rapidement, la politique a fait son entrée dans la vie sociale, dans la vie des gens, dans la vie des villages. Et évidemment, avec la politique qui dit politique, dit débat, débat d'idées. Et Dieu sait si, à cette époque-là, le débat d'idées était déjà assez fertile et même vif, sans doute, sur des thématiques qui apparaissent fortement, comme la religion, comme l'instruction. Et puis aussi, on voit derrière tout ça l'influence de l'État qui commence à grandir. Donc tout ça, ça transforme quand même la vie des gens, ça anime la vie des villages. Qu'avez-vous trouvé comme trace de cette vie-là dans vos recherches, Monsieur Bresse ?
Alors, pour le 19e, il y a beaucoup plus de sources et beaucoup plus de documents que pour les siècles précédents. Et tout ce que vous dites est juste. Il y a énormément de débats autour de l'éducation des garçons et des filles, avec des périodes où les congrégations religieuses sont très actives, y compris pour les garçons à partir de 1851, où l'école municipale qui était sans les congrégations devient une école congréganiste. Puis les filles, alors les filles sont éduquées très tôt à Trisac, puisque ce qu'on appelle localement le couvent, qui n'en est pas un, disons une congrégation religieuse, se charge de l'éducation des filles à partir de 1830. Ça a un effet, c'est que les filles, très vite, savent lire et écrire à Trisac dans leur immense majorité. Plus vite qu'ailleurs dans la région, si on le compare. Mais chez les élus, c'est compliqué, parce que quand l'État, justement, la République, la Troisième République, après Jules Ferry, impose que des communes de la Veille de Trisac aient une école laïque, publique et obligatoire, eh bien, ils sont absolument d'accord avec obligatoire, voire gratuite ou quasi-gratuite, mais pas sur laïque, parce qu'ils ont une école tenue par les sœurs qui tient très bien. Et les élus, même s'ils sont républicains, sont aussi de bons propriétaires qui veulent des filles bien éduquées. Et donc on a tous ces conflits-là qui animent la vie communale.
L'influence de l'État, là, comment elle se manifeste ? Est-ce qu'elle se manifeste vraiment, d'ailleurs ? Est-ce qu'elle est plus prégnante que celle du roi ?
Alors, plus largement, de l'administration. C'est-à-dire que la commune, peu à peu, au fil du siècle, prend de plus en plus de responsabilités. Alors, les employés communaux, d'abord, le garde champêtre. Alors, principalement, c'est le garde champêtre, les vicaires, parce que les vicaires doivent être payés par, pas le curé, mais les vicaires doivent être payés par la commune. Garde forestier et garde champêtre, c'est deux emplois différents. Et puis, aussi, des suppléments de salaire pour les instituteurs et institutrices, des compléments ou des allocations pour leur hébergement, etc. Donc, ça, c'est de la présence de l'État. À Trisac, vont arriver, à la fin du siècle, une gendarmerie, une caserne de pompiers, la poste. Et donc, le village se structure complètement différemment. Il y a une présence. Alors, on dit qu'il y a une accoutumance aussi des Trisacois, des ruraux, y compris de ceux qui n'ont jamais quitté le pays, à quelque chose qui vient d'ailleurs et qui leur apporte des services, bien évidemment, pas simplement la pesanteur. Quand une bonne partie de la population a migré à Paris, recevoir un télégramme au bureau de la postière, c'est extrêmement intéressant. Avoir ses filles éduquées, ça permet par exemple à une famille modeste d'avoir une fille bachelière avant 1914 à Trisac. C'était quelque chose de totalement totalement inconcevable quelques décennies plus tôt.
Oui, donc on voit que ces changements font peu à peu basculer les villages dans la vie moderne, dans le monde moderne, qui est fait de nombreux services et d'une organisation assez structurée, avec des représentants, élus, etc. Donc c'est quelque chose qui donne un nouveau visage à tous ces villages de ce petit monde rural. Mais il y a aussi un phénomène, vous venez de l'évoquer, que j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu, c'est ce qu'on appelle l'attraction parisienne, qui a joué un rôle, qui a occupé une place importante dans la vie de nos petits pays. Que pouvez-vous nous en dire? Comment est-ce venu et comment ça s'est développé?
Alors, on a parlé déjà dans les émissions précédentes des migrations lointaines. Je vais citer la Normandie, enfin l'Espagne plutôt, puis la Normandie. Il y a deux changements. Il y a un changement local qui est le changement démographique. On a un trop-plein local, il faut partir. Et puis il y a un changement qui vient de l'extérieur. À mon sens, c'est le chemin de fer. Le chemin de fer qui arrive à Bord, puis un petit peu plus loin, puis plus tard même à Rion. En tout cas, dès qu'il est à Bord, ça veut dire que de Trizac, c'est très facile de partir et de se retrouver à Paris le lendemain. Et ça, c'est totalement nouveau. Ça veut dire que des destinations qui apparaissaient comme lointaines et pas abordables de la même manière pour tout le monde deviennent aisées. Le barrage financier n'en est pas vraiment un. Pour les hommes comme pour les femmes. Donc la migration qui était majoritairement masculine se féminise. Donc on a à Paris... Alors pourquoi à Paris? J'y reviens. Mais on a à Paris un flux de migrants qui est 60% masculin, 40% féminin. Parfois, c'est les couples qui migrent après le mariage au pays ou deux célibataires qui se marient au pays mais qui se sont connus à Paris. Enfin, on a des mouvements massifs qui se produisent. Alors, ils se produisent à Paris. Pourquoi? Parce que Paris, depuis 1850, c'est une explosion urbaine. On a besoin de beaucoup de bras. La population explose. Elle attire des gens de toutes les provinces. Les Trizacois sont parmi les autres Auvergnats, mais surtout parmi les autres provinciaux. Alors il se trouve qu'à Paris, un grand nombre d'entre eux se regroupent dans le 11e arrondissement, rue de Lappe et alentour, où ils exercent pour les Trizacois principalement dans les métiers de la ferraille. Ce qui ne veut pas dire que tous font cela. D'autres sont dans d'autres arrondissements, ont d'autres métiers, travaillent comme domestiques, comme cochers, comme employés aussi. Il y a des fonctionnaires et des garçons et des filles.
J'aimerais, monsieur Bresque, pour conclure, vous nous parliez un petit peu de, finalement, à la fin de la période que vous avez étudiée, c'est-à-dire au tout début du XXe siècle, quel est le visage de Trizac, du pays de Trizac?
De manière un peu malicieuse, dans mon mémoire de thèse, mon dernier chapitre est intitulé « Les deux visages de Trizac à l'aube du premier conflit mondial ». Bon, 14, c'est une rupture comme on n'en a jamais connue, partout en France, donc je me suis arrêté là. Mais entre 1900 et 1914, par exemple à Trizac, on voit arriver la modernité. Alors, on n'en a pas parlé, mais le Trizac de 1914 est très différent du Trizac d'aujourd'hui dans la mesure où il y a des commerces en grand nombre. Et ça, ça a été aussi une des grandes modifications de la fin du 19e liée aux modes de consommation qui ont changé. C'est-à-dire qu'un Trizacois ou une Trizacoise achetait en 1910 beaucoup de choses qui venaient d'ailleurs. Et ça, ce n'était pas le cas de ses grands-parents. Et donc la modernité est arrivée. On a une fromagerie modèle qui s'installe à Trizac et on rentre dans ce qu'on appelle la modernité au sens où ceux qui ont vécu au XXe siècle peuvent en parler. Et cependant, il y a dans les mentalités qui évoluent plus lentement des témoignages de mentalités qui restent inchangées ou qui ont peu changé. Les traditions familiales, on en a parlé tout à l'heure, n'ont pas changé au même rythme. La pratique religieuse n'a pas décru de manière significative en 1914. Ce sont des phénomènes qui arriveront plus tard. Donc on a un monde à la fois très différent du monde d'avant. En deux générations, il a été bouleversé entre 1850 et 1914. Il est bien sûr très éloigné du monde qu'on connaît aujourd'hui.
Bien, écoutez, chers auditeurs, je crois que nous arrivons cette fois au bout de cette émission, en 4 épisodes. C'était le 4e aujourd'hui. Donc je vais remercier M. Bresque pour ce qu'il nous a exposé et le travail qu'il a fait. Certes, nous n'avons pas épuisé l'ensemble des questions qui figurent dans sa thèse, mais j'espère que tout ce que M. Bresque nous aura raconté vous aura intéressé. Voilà, merci chers auditeurs de l'attention que vous portez à RBA FM, de l'intérêt que vous portez à ces émissions. Et puis je rappelle que vous pouvez retrouver les podcasts sur la page Facebook de RBA. Chers amis, bonsoir.
RBA FM, Auvergne, Limousin.